Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone, ce balado hockey que nous vous proposons deux fois par semaine depuis déjà quelques semaines. C'est notre deuxième saison au 98.5 et aussi en compagnie de toute l'équipe de la presse. Mon nom c'est Jérémy Filosan, en compagnie des panélistes pour l'émission d'aujourd'hui, Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Alexandre Pratt de la presse. Salut Alex.
Salut.
Et Michael Lalancette dans nos studios à Québec. Salut Mick.
Salut.
Merci beaucoup. Alors, petit délai. Alors, on va arranger ça dans les prochains
c'est
instants.
C'est Québec.
Ouais, c'est sûr. Ils sont dans un autre time zone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toujours un petit peu en retard. Pas grave. Une chance que Michael, il est solide, bon. Il va compenser.
Moi, je veux juste dire aux gens de Québec, ouais. Là, je me dissocie des propos qui ont été racontés ici.
Les commentaires dans ce podcast ne reflètent pas nécessairement l'opinion, c'est ça. Voilà.
Bon, OK.
Alors, les gars, écoutez, le Canadien récolte 4 points sur une possibilité de 6. On va essayer de regarder la semaine globalement là, avant de s'arrêter au match d'hier parce qu'on a quand même gagné 2 des 3 matchs. Et écoute, dans le monde du hockey, tu gagnes 2 matchs sur 3. Normalement, t'es quand même très satisfait de la chose. Mais un premier commentaire général sur la semaine du Canadien. Jérémy, je commence avec toi.
Ben écoute, c'était une bonne semaine qui est pas terminée parce qu'il y aura le match de samedi, le match de demain face aux Sénateurs d'Ottawa, qui était assombri par une drôle de performance face aux Sénateurs. Tu sais, tout le monde voyait arriver ça avec... tout le monde savait que c'était pour arriver et le Canadien est tombé dans le piège également. Jumelé à une bonne performance, quand le Canadien a donné espoir aux Sénateurs, ben les Sénateurs ont pris ça en charge. Puis ils voulaient stopper cette séquence de 7 défaites. Puis vraiment, ils ont disputé un bon match dans la mesure où le Canadien n'a pas été en mesure de bien compétitionner. Mais somme toute, je pense que on voit que le Canadien a récolté beaucoup d'honneur durant cette semaine-là. Tu sais, à travers la Ligue nationale, les commentaires, tout le monde voyait le Canadien comme étant une équipe performante dans la Ligue nationale. Puis c'était un dur retour à la réalité face aux Sénateurs. Puis savez-vous quoi? Moi, je suis pas contre ce qui s'est passé. Reviens sur la terre, mets tes bottes de travail. C'est le fun d'avoir les Kodak puis tout ça. Mm-hmm. Même année, mets tes bottes de travail parce que c'est comme ça que tu vas gagner des matchs.
Alex?
Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu perds contre la pire équipe de la Ligue, c'est jamais super bon, mais je trouve que dans l'ensemble, le Canadien a quand même eu une bonne semaine. Je veux dire, les 2 victoires étaient très convaincantes contre les Canucks. Et ça continue d'être une équipe qui tire beaucoup. Oui, le Canadien a perdu contre les Sénateurs, mais il y a eu presque 40 tirs au but. Puis on va noter que les 2 dernières défaites du Canadien, les 2 fois, c'était à la suite d'une performance, je veux dire, remarquable ou exceptionnel du gardien de but adverse. Là. L'autre fois, c'est Jakob Markström. Hier, c'était Matt Murray, qui honnêtement, j'attendais pas aussi fort. Là. Je l'ai laissé tomber dans mon pool à long terme après
peut-être qu'il est
quelques
en train de
saisons
se réveiller,
de souffrance extrême. Mais non, mais donc, ils ont quand même été battus par un meilleur gardien de but hier. Carey Price n'était pas tout à fait à son aise. Puis il y a des joueurs qui quand même... hier, mon déçu, Nick Suzuki, entre autres, qui lui-même l'a reconnu après le match, il a connu un mauvais match. C'était un très mauvais match. Ouais. Même chose pour Ben Chiarot. Puis l'avantage numérique, qui commence à ressembler un petit peu plus à ce qu'on a vu l'année dernière qu'au début de la saison. Mais dans l'ensemble, tant que le Canadien continue de tirer aussi souvent, puis de provoquer des revirements, il va être une puissance là, de la Ligue nationale. Puis moi, je pense pas que cette défaite-là va être représentative du reste de la saison.
Michael?
Ben, en fait, moi, j'ai aimé la semaine du Canadien. Je vais suivre les conseils que les bons entraîneurs de hockey nous disent tout le temps. Là. Ne jamais monter trop haut en cas de victoire et ne jamais baisser trop bas en cas de défaite. Sauf que j'ai remarqué quelques petits traits de caractère du Canadien de la saison passée ressortir un petit peu dans le match contre Ottawa. De la difficulté contre les équipes de bas de classement. Souvenez-vous, messieurs, à quel point ça a été compliqué pour le Canadien l'année passée d'aller chercher des points faciles, entre guillemets. Mais j'espère que ça sera pas une tangente, une tendance comme un peu Alexandre le disait. Moi non plus, je pense pas que ça soit problématique pour l'ensemble de la saison, mais tu veux casser ça en partant, là. Tu veux pas répéter ça dans le futur. Puis je remarque une chose, le Canadien semble un petit peu moins à l'aise dans les matchs où est-ce que moins de buts marqués. On regarde leurs 3 défaites, ça a été 3 matchs de 5 buts ou moins au total, là, si on considère la contribution offensive du Canadien et l'adversaire, c'est ça. Alors, tu sais, puis plus la saison on va avancer, plus il risque d'y avoir des matchs à bas pointage, des matchs qui vont être un petit peu plus serrés, des guerres de tranchées sur la glace. Puis le Canadien va devoir s'ajuster. C'est le fun de voir Montréal marquer 5-6 buts par match, gagner des matchs par 2-3-4 buts d'écart, mais ce sera pas ça, là, plus on va avancer dans cette saison-là. Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit drapeau rouge pour ce match-là, mais tu sais, évitons de paniquer puis évitons de sombrer là, dans le pessimisme.
Tu sais, j'ai trouvé Matt Murray bon, mais pas excellent.
Non, il s'est battu avec la rondelle à plusieurs reprises.
Exactement. Donc, il a fait des arrêts, correct, parfait. J'ai trouvé que le Canadien, hier, est tombé un peu dans les tirs qui venaient de périphérie, puis de loin, des arrêts quand même assez faciles. Chose qu'on avait vu aussi contre les Flames la semaine dernière, mais c'est pas quelque chose qu'on revoit à tous les matchs, comme ça a été le cas dans
Canadien
les dernières
a eu des grosses chances de marquer hier, là, sur lesquelles il a pas capitalisé. Là. Vraiment, là, il y en a eu...
J'ai pas trouvé qu'il y avait eu tant que ça des chances de... Grade A opportunities, là, comme il appelle.
Il y en a eu, le Gallagher et Toffoli étaient directement à côté du filet. Chacun a raté une chance. Kulak, au moment de... Quand il a fait le tour du filet puis qu'il est revenu, un wraparound en bon français, là, était vraiment pas loin d'être dedans. Il y a beaucoup de chance. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques plus avancées, Montréal aurait dû avoir 3 buts et Ottawa 1.5. Donc, normalement, le Canadien aurait... plus, mettons, prétendre gagner ce match-là, puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait, donc juste avant de rentrer. Oui, Murray a eu un bon match, et Price en a peut-être eu un moins bon aussi. Là. Je pense que ça reflète ça hier quand même, ce qu'on a vu.
Moi, je veux dire, je suis déçu de la performance du Canadien face aux Sénateurs pour une chose, c'est que on a tellement vanté le leadership de cette équipe-là. Tu sais, on a dit, il y a de l'expérience, il y a des gars qui ont gagné, il y a des gars qui... Tu sais, ce sont de bons leaders chez Weber, Carey Price. Puis là, tu amènes des gars qui ont gagné la Coupe Edmondson qui est là, Toffoli qui arrive. Tu sais, parfait. J'aime ça. Sauf que tout le monde voyait ce match-là comme un match où tu as un club qui est dernier dans la Ligue, qui a perdu 7 matchs de suite, qui affronte la meilleure équipe de la Ligue. Je veux dire, écoute, si vous écrivez un livre sur le hockey ou un film, c'est toujours l'histoire qui va arriver. Le moins bon club bat le meilleur club dans un match donné. La seule chose, c'est qu'il faut prévoir ça. Donc, on doit travailler en conséquence. Faut pas juste le dire dans des meetings, mais faut agir en conséquence. Le Canadien marque le premier but. Là, on est là. OK, voilà. Le party offensif est recommencé. Ça sera pas trop long.
C'est exactement ce que
je me suis dit. C'est quoi? C'est une trentaine de secondes en fin de première période. 2 buts des Sénateurs. Et là, on a senti l'équipe tomber à plat. La deuxième période, c'est ce club-là n'était juste pas là. L'intensité n'est pas là.
En deuxième période, il avait l'air du club de l'année passée.
Exact. Et ça, je trouve ça décevant. Je me dis, OK, parfait, mais tu sais, il faut pas que ça arrive. Là, tu sais que ça peut arriver, mais il faut pas que ça arrive trop souvent, parce que sinon, ça va être difficile.
On s'en parlait à l'extérieur des ondes là, de Carey Price, puis je sais que les gens ont appelé hier soir, se sont plaints de Carey Price. Moi, je suis garde, là, on est en début de saison, ça va bien pour le Canadien, on n'est pas ici pour mettre le feu, ça c'est certain, mais... Tu sais, j'ai comme l'impression que le salaire qui vient avec Carey Price va faire en sorte que s'il est bon, ça sera pas assez. Aux yeux des gens. Parce que les gens vont dire, écoute, là, tu gagnes presque 11 millions, tu gagnes 1/8 de la masse salariale, même plus. Il faut que tu sois au-delà, il faut que tu sois extraordinaire. Et présentement, c'est pas le cas. Michael, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, puis en plus que Jake Allen, jusqu'à maintenant, on a rien à dire.
Alors,
mais...
il garde vraiment bien les buts, là, Jake Allen.
C'est ça. Michael?
C'est sûr que ça, à un moment donné, ce débat-là va ressurgir parce que même, je dirais même les gars, aux entraînements, Carey Price n'a pas l'air dans son asset en ce moment. Ça se voit, là, son non-verbal. Puis je dis pas que, tu sais, il connaît de mauvaises performances, mais il est pas à la hauteur de Carey Price, des standards qui nous a habitués. Puis c'est sûr que les gens, ça revient tout le temps lorsqu'on parle avec des partisans, lorsqu'on les lit sur les réseaux sociaux, ça revient ça. Les attentes sont au plafond parce que, justement, il y a la réalité économique, la réalité de son contrat qui est derrière ça. Puis on dirait qu'on est pas capable de séparer le contrat versus le joueur de hockey.
Mais il va falloir à un moment donné, tu sais, il va falloir se faire aider, là. Non, mais je comprends que vu de l'extérieur, tout le monde fait, écoute, au salaire qui est payé, il faut que ce soit plus performant que ça. Je veux juste vous dire une chose, c'est que la journée où le Canadien va gagner des matchs, on n'entendra pas parler de Carey Price, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le club est bon devant lui. Quand Price était majestueux, puis que le Canadien gagnait, c'était à cause de Price. Là, présentement, comme souvent que ça arrive en début d'année, le gars a un lent début de saison. Là, avant le match d'hier, il était à 903 en pourcentage d'efficacité. Après le match, il était à 899. Sous la barre des 900, pour moi, c'est pas des chiffres que tu vas avoir dans le cas de Carey Price. Maintenant... tu sais, le gars, moi, personnellement, j'étais Claude Julien. Là, je pense que j'ai besoin d'envoyer mon gardien de but numéro un plus souvent dans le filet. C'est le fun, là. On split, là. Okay. Mais envoie-le dans l'action.
Tu penses que ça peut changer?
Oui,
ça peut changer le plan de match canadien?
Envoie-le plus souvent, là. Ouais. Fais des matchs, là, puis mets-les dans le filet. Ah oui. Je pense qu'on est rendu là.
Tu penses que c'est ça qui lui manque?
Vous savez quoi?
Je pense que oui.
Moi, je me demande s'il est pas blessé un petit peu, hein. Et on l'a vu l'autre jour à la télé, là. Je pense que c'est à TVA Sport où on a montré que, clairement, il a l'air d'être accommodé par un malaise au cou. Là. Il a reçu un coup dans le cou contre, je pense que c'était les Canucks, à Vancouver.
Je me souviens.
Puis on le voyait à l'entraînement. En fait, il avait vraiment beaucoup de difficultés à se revirer d'un côté. Là. Il y a peut-être ça aussi qui le dérange. Là. Puis, ce qui expliquerait que vraiment, présentement, justement, c'est pas Price qui est là deux matchs sur trois. Là, que c'est... Il est à peu près ça depuis le début de l'année, là, mais on tombe plus dans un système de rotation présentement. Je me demande s'il n'y a pas une blessure un petit peu derrière ça.
C'est parce qu'il ne pourra jamais nous en donner pour la valeur du contrat sous le plafond salarial. Ça, c'est la réalité. Puis à un moment donné, c'est des mathématiques, c'est des chiffres. On verra bien. Les gars, chandail bleu, sujet plus léger, vite.
J'ai adoré. Moi, je trouve ça très beau. Très, très beau. Sur place, hier, je vous dirais, j'ai regardé le Canadien Express, là, en rappel. J'ai vu que le bleu n'est pas le même un peu à la télévision, mais quand tu le vois sur place, le bleu est un petit peu plus foncé. Moi, j'ai trouvé ça très, très beau.
Moi aussi.
Tu sais, là, on est en chronique artistique et mode, là, mais...
Ben là, on vient faire le procès de l'impact, avec le logo, on va dire, chandail du Canadien,
mais,
ça a bien mieux passé.
Mais à ce sujet-là, je trouve que le chandail, en fait, ma crainte au départ, c'était comment aller sortir les numéros dans le dos, parce qu'on l'a vu, hein, il y a à Vancouver, là, dans la MLS, ils ont un uniforme tricolore aussi comme ça, où les numéros sont illisibles dans le dos. Et je trouvais qu'en fait, tout ressortait bien. Il était vraiment très beau, là, cet uniforme-là. Il faisait un petit peu penser à celui de 1909-1910 que le Canadien avait porté il y a quelques années, que je trouve encore plus beau que celui qu'il a porté hier. Mais somme toute, pour une équipe qui a une histoire avec laquelle tu peux pas tant jouer, c'était franchement réussi.
Ouais, moi aussi. Michael, qu'est-ce que t'as pensé?
Ouais, ben j'ai adoré comme vous là. Et moi, je suis un fan de bleu en partant. Je l'avoue là, ça n'a rien à voir avec Québec, ok. Je précise
ben
tout de suite.
C'est ça l'histoire de Québec.
Les remparts
jouent en
rouge.
Sauf que j'ai adoré ce chandail là.
Ouais, non moi aussi.
Exact.
Très 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 beau, aucun problème. Il pourrait le porter une fois de temps en temps
mais
comme ça.
Tu sais que là, les gens ont commencé à parler de la malédiction du chandail bleu.
Ben là, c'est ça. Parce que là, on dit là, on gagne, on a une séquence de victoires.
S'il vous plaît.
Là, tu m'arrives avec un nouveau chandail.
Non mais moi, je peux comprendre à l'époque quand ils ont sorti le chandail de Barbier, tu dis OK, ça, si on joue pas bien avec ça, on ramène plus ça jamais de la vie. Ça, je suis d'accord. Mais le chandail bleu, arrêtez, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le chandail.
Non,
là.
Mais c'est comme le gars au casino, là. Il joue au blackjack, là. Il mise 10. Il gagne. Il gagne. Là, il dit, m'a misé 15. Il perd. Maudite affaire.
Misé 10.
Exactement. Les cartes.
Mais hier, le Canadien était juste un peu flat, honnêtement.
C'est vrai.
Moi, j'ai trouvé qu'hier, il y a surtout. Quand le Canadien s'est mis à tirer de l'arrière 2-1, puis surtout 3-1, il y a beaucoup de joueurs qui ont voulu aller jouer un petit peu à la vedette.
Oui.
Il y avait beaucoup moins de passes, il y avait plus de montées.
J'ai remarqué ça.
D'ailleurs,
aussi.
Il y a une statistique vraiment intéressante à RDS hier qui nous montrait qu'il y avait juste eu 2 entrées de zone en surnombre, alors qu'il y en avait 8 depuis le début de l'année pour le Canadien. Donc, pour moi, c'est très représentatif de ce que je voyais hier. Là. Beaucoup, beaucoup de montées, des tirs de loin. C'était compliqué, sauf dans les dernières minutes où là, vraiment, le Canadien a très bien joué jusqu'à la dernière punition. Mais hier, tout le monde essayait d'en faire un petit peu trop. Puis celui que j'ai trouvé vraiment flat, c'est Nick Suzuki. Hier, là, vraiment, il y avait rien qui fonctionnait.
Jeff Petrie, c'était ordinaire aussi.
Petrie, je suis tout à fait d'accord,
Quelle mauvaise pénalité qui a écopé. Puis ça a amené au but des Sénateurs. Ça a changé la dynamique. Mauvaise punition. Hey, je veux savoir, Alexandre, est-ce que tu étais là hier au match? Est-ce que tu étais au centre?
Non, parce qu'on est limité à 2, puis on favorise les gars qui sont sur la couverture.
Bon, j'étais là hier au match, moi, puis je suis là quand ça se passe au Centre Bell. Là, je vais vous raconter quelque chose. Puis d'après moi, je suis pas dans le champ gauche. Mm-hmm. Mais en réécoutant le match aujourd'hui, je me rends compte que le volume des partisans, c'est beaucoup plus fort ce que vous entendez à la radio, ce que vous voyez à la télévision. Tu sais, on les sent extrêmement présents. Sur place, là, c'est rien. Il y a rien. C'est faible. Il y a pas d'ambiance. Fait que donc, on commence le match. Puis je vous le dis, là, tu te parles sa galerie de presse, là, à 2 mètres de distance, évidemment, là. Si tu parles un peu fort, d'après moi, ils t'entendent sa adresse. C'est vraiment faible. C'est faible, le son. Puis là, à un moment donné.
Mais il pourrait le mettre dans l'édifice, comme nous, on l'entend.
Si le niveau sur 10 à la télé est aux alentours de 8, ben, je dirais qu'au Centre Bell, il est à peu près à 2,5, là. 2, 3, pas plus que ça. Puis là, à un moment donné, le match commence, puis là, le Canadien marque, on a le bruit de sirène, tout ça. Puis là, les Sénateurs, ils marquent, puis là, on sent qu'on a besoin de trouver trouver du momentum. Là, ils ont grimpé le son un petit peu. Ils ont mis de la musique, ils ont grimpé le son un petit peu au Centre Bell, mais il n'y a pas d'ambiance. Il y a zéro.
Quand l'autre équipe marque, là, il t'est mieux d'avoir les yeux sur la glace, sinon tu le sauras jamais.
Ah non, mais il n'y a pas d'ambiance. Je vous le dis, là, c'est hallucinant. Je me demande comment les gars sont capables de composer avec ça.
Non, c'est, parce que Jonathan Drouin en avait parlé, hein. Il s'était plaint un petit peu de ça dans les séries éliminatoires, puis tout le monde lui était tombé dessus, alors que je trouvais que c'était vraiment un point valide. Souvenez-vous, là, il avait dit, ça me rappelle mes matchs à Sainte-Agathe, là, quand j'étais dans le Pee-Wee, puis qu'il y a peu d'ambiance, puis tout le monde avait ri de lui en disant, franchement, de quoi tu te plains?
Alex,
mais c'est vrai, je veux dire, il y en a un impact, là, quand même, là.
T'as fait des entraînements, des pratiques des Alouettes de Montréal, sûrement, là, t'en as couvert carrière. Ben, souvent, ils font ça. Durant les entraînements, il y a des gros speakers sur le terrain d'entraînement.
Pour simuler la foule.
Exactement. Pour se mettre dans l'ambiance, pour s'habituer.
Pour être capable de se comprendre aussi par les signaux, parce qu'on peut
exact.
Pas parler.
Ouais. Là, il n'y a rien de ça. Soit dit en passant, ce matin, Alexander Romanov a reçu une rondelle au visage. Il a reçu quelques points de suture, mais il n'y a pas de problème. Il va pouvoir poursuivre. Il n'y aura pas de passage sur la liste des joueurs blessés.
Il va pouvoir frapper encore Thomas Chabot. Ouais. Quelle mise en échec.
Tabarouette. Ah, ouais. Puis tu vois, lui, là, il s'est fait sauter dessus. Puis la mise en échec, pour moi, était légale. Il n'y avait pas de problème.
C'est légal.
Puis il s'est fait sauter dessus. Fait que, en tout cas, je pense que les joueurs du Canadien devaient prendre des notes. Les gars, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants. Les gars, il y a beaucoup été question de Philippe Dano cette semaine, un peu parce que il y avait des performances un petit peu en dents de scie. On a aussi parlé de son temps de glace qui a un petit peu diminué. Hier, il a été le meilleur joueur de centre du Canadien, ouais. Peut-être même le meilleur joueur du Canadien, mais le Canadien a perdu. L'équipe autour de lui n'a pas été aussi bonne et ça a été un match à l'image de ce qu'on a vu l'année passée. Mmh. Philippe était souvent le meilleur l'année passée, mais l'équipe autour de lui n'était pas aussi bonne. Ça dit quoi de cette équipe-là?
Ben, écoute, ça dit premièrement, je pense qu'on s'attendait à plus de ce trio-là avec Dano, Gallagher et Tatar. Je pense que Gallagher est capable d'aller chercher sa production offensive parce qu'il est impliqué souvent été là, entre autres, en avantage numérique. Dans le cas de Tatar, on l'a tassé un peu de l'avantage numérique. Philippe Dano, on avait diminué son temps de jeu, puis j'écoutais Danny Dubé hier durant le reportage qui disait, tu sais, il y a des messages qui sont lancés par moment, puis je pense que les joueurs doivent le saisir. C'est un message qui a été lancé à ce trio-là, puis pour moi, ça a été le meilleur trio du Canadien dans cette défaite face aux Sénateurs. C'était le fun de voir la combativité qui était de retour dans le cas de Philippe Dano, parce que je dis pas qu'il a été moins combatif,
ouais.
Mais on le sentait moins impliqué, peut-être un petit peu plus perdu. Sauf que là, c'était le Philippe Dano qu'on a vu l'année passée avec Tatar, avec Gallagher. C'était un trio qui était dominant pour moi.
Ce matin, Alex, je sais pas si tu as écouté les propos de Philippe. Il a parlé un petit peu de ça. Il a posé la question à savoir s'il y avait de la distraction par rapport à son contrat. T'sais, il dit que non, mais
c'est clair.
Connaissant Philippe, si on retourne dans le temps où il avait signé son dernier contrat aussi, ça avait été un peu la même chose. Écoute, quand t'es un type un peu nerveux, c'est dans ta personnalité, c'est dur à chasser, là.
Non, mais au-delà de ça, non, mais sérieusement, tout le monde, les meilleurs joueurs au monde, je veux dire, on parle de Lionel Messi ou de n'importe qui, Mike Trout qui vient pour signer un contrat dans l'année qui précède son contrat, quand il y a de la spéculation, voyons donc, c'est sûr qu'il y pense. Quand il voit son temps de jeu diminuer de match en match, c'est sûr qu'il pense, OK, si ça continue comme ça, je vais perdre 4, 5, 600 000 $. Est-ce que je devrais signer tout de suite? Qu'est-ce que je devrais faire immédiatement pour améliorer mes statistiques ou pour être dans les plans de l'équipe? C'est sûr que ça va jouer toute l'année. Puis on avait discuté dans les deux premiers balados de la saison, comme quoi, oui, ça allait être une distraction. Puis oui, le temps de jeu allait être une distraction cette année chez le Canadien. Là, t'sais. Puis non, mais clairement, Dano, il a été le joueur le moins utilisé. Je pense que c'est dans le premier des matchs contre les Canucks. Je veux dire, c'est certain qu'il parle à son agent après ça. Puis, et souvenez-vous, là, quand sont sorties deux semaines les informations à propos du contrat qu'il avait refusé cet été, t'sais, clairement, je pense qu'il y a eu un rapprochement entre le Canadien et les agents de Dano à ce moment-là. Peut-être que c'est en train de se discuter présentement. Ou en tout cas, je soupçonne qu'il y a des pourparlers présentement. Donc, c'est sûr que ça doit le déranger. Je veux dire, ça serait comme ça dans... n'importe quel emploi, en fait, ça serait comme ça une année où tu renégocies un contrat comme ça. Et imagine pour un joueur de hockey, puis dont c'est le contrat de la vie, en passant, là, potentiellement, c'est son plus gros contrat. Donc,
mais
oui,
Michael,
c'est sûr, ça dérange.
Disons que la décision de laisser tomber et de pas accepter cette offre-là, le timing est pas très bon, parce que je veux dire, il devait bien se douter qu'avec l'arrivée de tous les joueurs qui ont été ajoutés à cette équipe-là durant l'entre-saison, que probablement son temps de jeu serait diminué et tout ça. Mmh. Donc, il y aurait moins d'opportunités pour lui de se faire valoir. Là, j'ai comme l'impression qu'il va probablement devoir accepter un contrat d'un moindre montant. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, ben c'est ça exactement. C'est comme si Philippe Danault était en rattrapage là-dessus, parce que la nouvelle, bon, elle avait été sortie là, mais sauf que cet échange-là et le non-retour par la suite entre le clan Danault et le Canadien, ben ça datait quand même d'il y a plusieurs semaines, voire des mois là. Mmh. Donc là, le début de saison commence, puis là on voit l'émergence des jeunes. Tu sais, c'est pas éphémère. Il semble pas trop y avoir de gang de deuxième année. Les gars sont capables de prendre des responsabilités. Il voit son temps de jeu chuter. Il récolte pas de points alors que le Canadien s'éclate offensivement. C'est comme si que ça, c'est tout venu en même temps, puis on le sentait, là. On sentait vraiment pas que Philippe Danault dans son assiette. Puis j'ai aimé la discussion de Claude Julien sur la glace. On dira ce qu'on voudra, ça peut être symbolique pour certains, puis sauf que moi je pense que c'était un moment important. Évidemment, on sait que les caméras sont là, puis c'est sûr qu'il y a eu des discussions entre Claude et Philippe Danault. Puis tu sais, il disait aujourd'hui à quel point que ben par certains moments il a peut-être sorti le fouet un peu, puis dans d'autres moments il a été réconfortant. C'est l'expérience de Claude Julien qui a parlé dans ce dossier-là. Puis ils ont besoin de Philippe Danault. Puis je pense qu'en tout cas, ben, on va souhaiter que, au fond, on ait tourné la page sur cet épisode-là, puis que les deux parties s'entendent rapidement. Mais tu sais, ça a fait réaliser à quel point que Philippe Danault est encore important. Là. Oui, il y a des jeunes qui sont capables d'en prendre, mais hier, ça n'a pas été une soirée qui a été facile pour eux autres.
Oui, exactement. Mais tu sais, tantôt, Philo t'a dit, parlant du contrat de Carey Price, on ne peut pas dissocier le contrat à l'athlète.
C'est sûr.
Comme on ne peut pas dissocier le montant que tu fais dans la hiérarchie de l'équipe. Moi, je pense, là, il y a une hiérarchie dans l'équipe d'un point de vue financier. Il y a une hiérarchie, veut pas.
Oui.
Puis encore là, c'est avec le plus grand respect que je vais redire ça pour Philippe Danault. Moi, je suis pas convaincu. Ça, pis c'est mon opinion, puis peut-être que je me trompe, là. Je suis pas convaincu qu'il est super bien conseillé là-dedans. Je pense qu'il faudrait peut-être revisiter les conseils qu'on lui donne. Mais quand Tyler Toffoli gagne 4,2, est-ce que Danault peut avoir 5,7?
Ben 5,7, aujourd'hui, là, il serait l'attaquant le mieux payé du Canadien.
Mais attends, je recommence. Toffoli gagne 4,2 pour 4 ans. Est-ce que Philippe Danault peut gagner 5,7?
Ben, c'est impossible.
À partir de là, je me dis, je peux comprendre que c'est une négociation, mais à un moment donné, ça prend une certaine ouverture d'esprit. Regarde avec qui t'es, là, puis regarde la hiérarchie financière qu'il y aura chez les attaquants.
Philippe, là,
sois logique.
C'est un gars qui est brillant, là. Il est capable de faire ces calculs-là. Puis il doit se dire, maudite affaire, comment ça se fait qu'on s'est planté de même?
Pourquoi on n'a pas pris le 5 s'il y avait un 5 au début?
Exactement. Puis là, au-delà du contrat,
Bien, s'il y avait un 5.
Ouais. S'il y avait,
parce que là, on peut parler, mais tu sais, y avait-tu vraiment un 5 au début?
Moi, je pense qu'il peut encore avoir 5 millions. Là, la question qui doit se poser, en fait, je suis pas mal certain,
je pense
encore voir 5 millions. La question qui doit se poser présentement, c'est combien de temps je continue d'attendre là, avant de signer le contrat. Puis est-ce que je pense que je peux retrouver mon niveau de l'année dernière puis augmenter ma valeur, ou je ferais mieux de signer tout de suite? C'est un peu comme à la bourse là, finalement. Là.
Ouais.
Tu sais, quelle action est-ce que tu continues d'attendre qu'elle descende encore davantage avant d'en acheter, ou t'achètes à ce moment-ci? On est un petit peu, je crois, dans ce jeu-là présentement. C'est sûr que le fait d'avoir eu moins de temps de glace dans les derniers matchs, ça lui a joué dans la tête. C'est certain,
ouais.
Certain.
Ouais, mais...
Mais moi, je serais pas surpris qu'il y ait une conclusion
rapide quand même. Excuse-moi, Philo, je te coupe là. Mais Alex, là, moi, je vais te dire une chose. Tu sais comment ça marche, les négociations. Si l'agent appelle présentement, là, au lieu de 5,7, là, ça va être 4,2. Là. Ça va être ça, là. Si l'agent appelle, là, c'est ça la négociation.
Moi, je pense qu'il va signer pour plus que ça. Moi, je pense que ça va être autour de 5,2, puis que c'est peut-être plus le terme qui pourrait poser problème à court terme que le montant comme tel.
Au-delà du contrat, là, Michael, quand je regarde le temps de glace de Philippe Danault, là, on est-tu vraiment offusqué de ça? Je comprends que lui voudrait jouer plus, puis il est habitué de jouer plus. Mais là, avec l'ajout des joueurs qui sont arrivés, pour moi, c'est juste normal qu'il y ait quelques minutes de moins.
Oui.
Tout le monde a reculé dans la hiérarchie. Je pense à des gars comme Victor Mété qui n'ont joué que 2 matchs cette saison. Je pense à un gars comme Jordan Will qui est même plus dans l'équipe. Veut pas, ben tout le monde écope un tout petit peu. Puis pour moi, Danault, je dis pas que présentement il est dans la bonne chaise ou la parfaite chaise. Je pense qu'il va regagner quelques minutes de jeu d'ici les prochaines semaines. Mais moi, j'ai zéro problème avec la façon dont on l'utilise présentement.
Moi non plus, puis je dirais que c'est généralisé chez le Canadien. Quand tu regardes un petit peu l'utilisation des meilleurs attaquants, on va prendre juste les attaquants, là. Je pense qu'il n'y a pas un gars du Canadien en haut de 20 minutes. Puis c'est parmi les équipes de la division canadienne qui utilisent le moins ses attaquants. Donc, je pense que Claude Julien, en ce moment, voit un petit peu le bon début de saison de l'équipe.
Oui.
Répartit un peu le temps de jeu avec tout le monde. Essaie d'inclure le plus de monde possible dans l'équation, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, la situation de la COVID au Canada il est assez stable, mais ça, peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Veut que tout le monde reste en santé, tout le monde reste un petit peu sur le qui-vive en quelque sorte. Puis moi, je parfaitement d'accord avec ça. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Le Canadien va arriver en séries éliminatoires si on se rend là en ayant utilisé tout le monde. Les forces fraîches vont être là. Moi, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis c'est sûr que Philippe Dano, c'est lui qu'on remarque le plus, là, parce que concrètement, quand on regarde la contribution offensive, quand on a vu même Thomas Tatar à l'entraînement retirer de l'avantage numérique, là, on s'est dit, ben dans le fond, là, ce premier trio-là, qui était celui qui contribuait offensivement, qui était fiable défensivement, ouais, est plus appelé à jouer les mêmes rôles. Mais c'est justement ça, le partage des tâches, il a été revu complètement.
Écoute, là,
c'est sûr qu'on remarque ça pour Dano, mais tu sais, il y en a qui poussent, là.
Au début de la semaine, là, si je regardais les statistiques, si je me trompe pas, le premier match de cette semaine, tous les attaquants du Canadien avaient joué entre 13 et 17 minutes. Je veux dire, t'es
Dano
coach,
est
là.
Troisième de l'équipe
t'es pour t'es un coach, jeu, là. T'es. Hey, c'est un luxe, là, être capable de faire ça.
Qu'est-ce
c'est
que tu dis, Dano, Alex?
C'est ça, Dano est troisième, là, quand même, des attaquants de l'équipe pour le temps de jeu depuis le début de l'année, là. C'est pas non plus une catastrophe, c'est juste, il a commencé l'année à 20 minutes par match ou 22 minutes par match.
Je pense qu'on s'excite pour rien.
Puis, là, ça diminue. Mais non, quand même, là, c'est pas dramatique là, non plus. Mais
puis là, moi, je vais vous lancer quelque chose. Là. À mon avis, là, quand Philippe Dano aura plus de temps de jeu, c'est parce que le Canadien connaît pas un bon match.
C'est vrai?
Parce que là, je vous explique. Ouais. Hier, là, moi, je regarde là le premier trio. Là, puis là, je l'appelle premier trio. Vous le mettez où ce que vous voulez. Mais Dano avec Tatar puis Gallagher, pour moi, c'était le meilleur trio. Après ça, t'as eu le quatrième trio qui a joué quand même de bonnes minutes sur la glace. Tu sais. Ouais. Après ça, là, le trio de Suzuki, c'était invisible. Le trio de Keke avec Toffoli, c'était invisible.
Ouais.
Fait que donc, c'est pour ça que Dano a eu plus de temps de glace. Parce que quand tes quatre trios fonctionnent, le temps est réparti comme il faut. Quand il y a deux trios qui en arrachent, là, t'es obligé de donner plus de temps de jeu à ceux qui fonctionnent. Puis c'est ce qu'on a vu dans le match d'hier.
Bon, les gars, quand je regarde la colonne des statistiques des buts marqués de la Ligue nationale, au moment où on enregistre ce balado, Tyler Toffoli est toujours le meilleur marqueur de la Ligue nationale avec 9 buts. Assez incroyable. 8 des 9 buts aussi contre les Canucks de Vancouver. Pauvre Canucks de Vancouver, ça c'est une autre histoire. Mais écoute, je pense que ça vaut la peine de discuter du fait que Tyler Toffoli mène la ligue pour le nombre de buts. Et écoute, on a une saison de 56 matchs cette année, puis là je sais qu'il y en a qui vont commencer à extrapoler, puis il va dire écoute, il va en marquer 50. Mais tu sais, soyons raisonnables, là, soyons logiques. Alex, je vais commencer avec toi. Combien de buts peut marquer Tyler Toffoli cette année?
Ouais, bonne question. Mais tu sais, présentement, il est à 24% ou presque là, de taux de réussite. C'est absolument gigantesque.
Ben non, c'est ça.
Ce ne sont pas des taux qui peuvent continuer. Mais tu sais, même si on le descend, mettons, à autour de, je sais pas, 10, mettons, 10% de réussite, puis qu'il reste à peu près 35 matchs, je dirais, fois 3, je dirais peut-être 22, 23 buts, ça serait quelque chose de réaliste. Là.
Moi, je pense qu'un 25. Au un total, 25 buts, là, ce serait une très bonne saison.
Gros.
C'est beaucoup, je le sais, mais il est déjà à 9.
Non, mais je trouve ça gros. Oui, mais tu sais, il y a toute une séquence contre les Canucks de Vancouver. Là. J'espère pour Vancouver que ce ne sera pas toujours comme ça, parce qu'ils vont vraiment regretter de ne pas l'avoir signé. Là. Mais tu sais, je trouve ça beaucoup. Moi, je pense que s'il va à 17, on va se dire que c'est une bonne saison. 17, 18, vraiment une excellente saison. 20, entre 20 et 25, c'est vraiment excellent. Mais c'est gros, là, pensez-y. Puis si on parle de répartir le temps de jeu, pas convaincu que t'es toujours sur la glace pour marquer les buts importants. Par contre, l'avantage numérique peut faire la différence dans le cas de Toffoli.
Mick?
Moi, je pense qu'il va marquer 20 buts. Je regardais sa meilleure saison en carrière 2015-2016. Il avait terminé avec 31 buts. Il a commencé cette saison-là à peu près la même façon qu'il le fait en ce moment. Il avait marqué 9 buts dans les 10 premiers matchs de la saison. Puis après ça, il est tombé dans une période creuse, 2 en 19. Donc, tu sais, ça va. Moi, je pense que ça va s'équivaloir. Je pense qu'il peut rêver à une saison de 20 buts. J'y crois. Moi, 22 buts, ouais, là, c'est faisable dans son cas.
Buts, comme c'est quand même réaliste, là. Ouais.
Dernier sujet, les gars, avant de faire une autre petite pause. Qu'avez-vous pensé de la semaine chez Weber? Parce qu'on en a parlé pas mal toute la semaine. T'sais, au début de la semaine, on savait que ça s'en venait. Il y a eu le jour du match. Ensuite de ça, il y a eu des petites cérémonies dans le match d'hier et tout ça. Comment t'as vu ça, Jérémy?
J'ai vu ça à l'image de chez Weber, c'est-à-dire extrêmement sobre dans les circonstances.
Ouais,
je veux pas parce qu'il y a pas personne dans les estrades. Puis j'ai l'impression que c'était correct pour chez Weber. Par moment, je veux pas dire agacé là, mais le gars avait le goût de jouer au hockey. Puis ça part de l'air d'un gars qui est très, très fort pour tout le cérémonial et ces choses-là. J'ai trouvé ça le fun qu'on amène la petite famille, qu'on amène les gars du Canadien.
Moi, je pense qu'il aurait préféré faire ça dans le vestiaire. Bon. T'sais, faites-le, mais je veux pas être là.
Ah, ouais, ouais. T'sais? Mais j'ai trouvé ça bien, bien agréable de voir les gars des Prédateurs de Nashville puis tous ceux qui ont été avec lui à Nashville parler. Je pense que c'est un gars qui, malgré le fait qu'il a une face de béton, c'est un gars qui doit être extrêmement sensible puis respectueux de ses amitiés qu'il a. Moi, sincèrement, c'était très, très sobre. On peut pas faire autrement dans les circonstances. Mais encore là, je répète, pour le millième match, lorsque tu soulignes le millième match de Shea Weber, puis que tu joues une partie de boîte comme ça, moi, j'aurais eu de la difficulté dans le vestiaire à me tourner de bord pour aller parler à Shea Weber après le match.
Ils ont quand même gagné 2-3, là. Je veux dire,
je comprends, mais tu sais, cette journée-là, là, honnêtement, l'effort était pas là.
Ouais, mais le jour du millième, ils ont gagné quand même.
Oui, mais le jour du bâton d'argent, mettons, le jour de la cérémonie.
Bon, le jour, il y avait la veille, le jour du bâton.
Ça a duré 3 jours, de toute façon.
C'est ça. Exactement. C'est comme une adolescente.
C'est comme les mariages italiens, ça arrive plus.
Exactement. T'as tout compris. Mais l'affaire que je, tu sais, qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir que le gars est dans sa 5e saison avec le Canadien. C'est le capitaine, pis on connaît rien de ce gars-là. Puis il y en a plein d'autres, là. Tu sais, je pense à Tomáš Plekanec qui a passé, quoi, 12 ans, 13 ans ici avec le Canadien. On connaissait à rien de ce gars-là. Je trouve que le Canadien gagnerait à mettre un petit peu plus en valeur. Tu sais, qu'on apprenne à connaître un petit peu plus la personne. Je veux dire, je trouve que les gars, ils viennent ici, ils jouent 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, ils repartent, puis après ça, on est comme.
Ben, tu sais, longtemps, là, on parle d'inside baseball un petit peu, mais. T'sais, longtemps, c'était très difficile de faire des entrevues individuelles avec les joueurs du Canadien. Ça a quand même honnêtement changé, là, je dois dire.
C'est mieux, c'est vrai.
Ben oui, non, oui, c'est mieux. Là. J'ai fait une longue entrevue avec Jonathan Drouin il y a 2 semaines. T'sais, ça faisait longtemps que je l'attendais, mais je trouve que ça a quand même beaucoup porté. T'sais, j'ai appris plein de choses sur lui en le faisant.
Ben c'est voilà. Très bon ton texte en passant, Alexandre. Félicitations, très bon texte.
Merci, mais en fait, c'est Jonathan qui parle dans le texte. Mais c'est intéressant, puis je pense que, honnêtement, je le sais que le Canadien a pris conscience de ça, là, que c'est important que les joueurs connaissent l'histoire des joueurs. On les connaît quand même un petit peu mieux. T'sais, le Journal de Montréal a quand même fait un très gros portrait, il y a peut-être 2 ou 3 ans, là, de Carey Price, puis en allant dans son village natal. Nous autres, à la presse, on en a fait. Il y en a aussi à la télé, puis vous faites des entrevues des fois à la radio. Il y a moins de joueurs francophones, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a un effort quand même qui est fait là-dessus, mais tu peux pas faire parler une roche non plus. Là, chez Weber, c'est pas quelqu'un de très expressif. C'est pas quelqu'un qui s'épanche sur ses sentiments et qu'il veut nécessairement raconter. On a fait une grosse histoire sur lui il y a 2 ans. Guillaume Lefrançois était même allé. Je pense que c'était à Kelowna ou en fait dans la vallée de l'Okanagan pour faire tout son passé, mais c'est pas quelqu'un qui est très expressif non plus.
Écoute, je pense que c'est notre collègue.
Moi, juste peut-être pour enchaîner là-dessus, là, j'avais demandé à Shea Weber parce que le tournoi de la Coupe Memorial devait être là l'année passée, tu sais. Puis lui, évidemment, il a joué son hockey junior à Kelowna. J'avais demandé, puis tu sais, je l'avais vu là que ça le tiraillait. Donc, il avait accepté. Donc, tu sais, je pense que c'est tellement pas dans sa nature. Je pense qu'il faut insister. Puis peut-être qu'à l'interne, il aimerait ça faire des trucs avec lui pour essayer de le faire. Connaître plus.
Mais écoute,
il y a vraiment, vraiment une réticence à essayer de s'ouvrir.
Le collègue Frédéric Deck, je crois, a écrit le livre Raconte-moi chez Weber. Puis il dit, on était supposé faire, je sais pas moi, 1h30. Puis il dit, finalement, ça a été réduit à 45 minutes. Finalement, on était supposé se revoir. Puis finalement, ça a été annulé. Fait qu'il dit, il a fallu que j'écrive le livre avec elle. Non, mais écoute.
Mais il y a des gens qui sont mal à l'aise là-dedans. T'sais, par contre, là, ceci dit, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Puis comme Philippe Danois, même Jonathan Drouin qui est plutôt à l'aise avec les médias, là. C'est pas tout le monde.
Je raconte une petite anecdote. Okay?
Vite, faut aller à la pause.
OK, écoute, à un moment donné, je me souviens plus, 2016-2018, je remplace Danny Dubé à l'analyse des matchs du Canadien en compagnie de Martin McGuire. Le match se déroule à Brooklyn contre les Islanders de New York. Dans ce temps-là, on jouait à Brooklyn. On est à l'hôtel, et puis il y a 2 autobus. Il y a l'autobus des médias, puis l'autobus des joueurs. L'autobus des médias quitte toujours un peu plus tôt pour le match, question que les médias peuvent se préparer, puis tout ça. Et chez Weber, lui, veut partir plus tôt. Fait que donc, ce qu'il fait, c'est que moi, je suis assis à où Martin me dit de m'asseoir. Tu sais, il y a un protocole. OK, moi, je suis le protocole.
Toi, le bouge pas, parle pas.
Non, pas du tout. C'est pas de cette façon-là, je veux dire, mais plutôt, je respecte le protocole. Tu sais, moi, je veux faire attention. Fait que je m'assieds à ma place. On est 2e, 3e banc en avant. Puis, à un moment donné, chez Weber, rentre dans l'autobus. Lui, il veut arriver plus tôt à l'aréna. Okay. Fait qu'il dit, il dit ça au chauffeur, je peux-tu embarquer? Oui, sans problème. Fait que là, il rentre dans l'autobus. Écoute, il est gigantesque quand tu le vois, là, vraiment, il est gigantesque. Okay. Et là, il vient s'asseoir juste le banc à côté de moi dans l'allée. Fait que moi, j'étais collé sur l'allée. Là. Lui, il était le banc à côté de moi sur l'allée. Il me regarde, bonjour, bonjour. Moi, t'avoue franchement, t'as pas comme le goût de commencer à jaser. Sa face te dit pas, hey, on jase-tu quelque chose, là, tu sais. Tu, OK, salut, Shay, nice, et bon match.
Mais, tout mais, ce que même dans le vestiaire, là, quand on fait des scrums avec, là, souvent, il regarde par en haut, puis il est tellement grand que là, rendu là, écoute, c'est ça. Bon, alors, on fait une petite pause et on poursuit avec les sujets de la Ligue nationale dans quelques instants. Bon, les gars, on revient et c'est pas un sujet Ligue nationale, mais c'est un sujet sur une grande personnalité, bien sûr, de la Ligue nationale, Mike Babcock, qui a gagné, bien sûr, la Coupe Stanley avec les Red Wings et tout ça. Bon, ça a mal fini avec les Maple Leafs de Toronto, mais là, on commence à dire que, possiblement, il pourrait effectuer son retour avec Équipe Canada. On pourrait commencer à le mettre là pour commencer à placer les pions pour 2022. Ça va faire un bon bout de temps là que le Canada n'aura pas évolué en match olympique, bien sûr. Mais est-ce qu'on est en train d'y faire une faveur à Mike Babcock? Est-ce qu'on est en train, ces chums de Hockey Canada sont en train de le remettre sur la voie pour qu'éventuellement il puisse revenir comme entraîneur dans la Ligue nationale?
Bof, écoute, moi je pense que enough is enough. Enough is enough avec Mike Babcock.
Il est brûlé?
Ben, on a fait le tour. On a fait le tour de cette histoire-là. Tu sais, un coach est aussi bon que les joueurs qu'il a sous la main. Et souvent, Babcock a eu la chance d'avoir de très bons joueurs, a pas toujours eu des résultats. Puis il y en a eu de très bons, mais pas toujours de bons résultats. On a connu les histoires. Le gars peut changer. J'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, présentement, là, lui, son contrat, l'argent rentre quand même.
Ah oui, absolument.
Tu sais, puis là, on l'a vu. Il recommence à faire de la télévision un peu. Je pense qu'il était avec NHL Network. Fait que c'est normal que on le voit dans l'entourage. Puis tu sais, les gars de la Ligue nationale, puis la confrérie. Mais tu sais, quand on entend Doug Armstrong dire, ça sera la jeunesse qui sera là. Ben, je m'excuse, mais c'est pas vrai que tu vas aller mettre un gars qui a connu le meilleur de sa carrière déjà. Mets quelqu'un qui va être capable d'être à date d'aujourd'hui, tu sais. Puis peut-être que lui est capable de le faire. Je dis pas qu'il est pas capable, mais sincèrement, je pense qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre.
Les gars, une opinion sur Mike Babcock?
Et Jérémy, tu parles de Doug Armstrong. Moi, je sais pas si vous avez écouté la conférence de presse lorsqu'il a remercié Mike Babcock. Moi, j'ai déduit que c'était bon, écoute, merci beaucoup de te donner de fiers services à Hockey Canada, mais ce sera pas toi la prochaine fois. Moi, j'ai l'ai compris comme ça, c'est ce que j'ai déduit. Tu sais, il y a des bons candidats là. On regarde c'est bien le fun Mike Babcock. Moi aussi je passerai à autre chose là. Puis il y a des bons candidats, alors je pense que on le reverra pas à la barre d'Équipe Canada.
Alex?
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'irais avec un coach de la Ligue nationale de toute façon. Il connaît peut-être mieux ce qui se passe présentement aussi. T'as peut-être plus d'antenne aussi dans ce temps-là. Et deux, tu sais, le mot se passe aussi entre les joueurs. Là. Est-ce que les joueurs voudraient vraiment jouer pour Mike Babcock pour la suite des choses? Je ne sais pas. Je passerai un autre appel. Là.
Bon, les gars, il faut parler de la situation de la COVID. J'ai évité de mettre ça dans mes sujets depuis le début. Quand on a commencé, je pense qu'on a parlé la première émission, mais j'en ai pas parlé parce qu'on savait qu'il allait avoir des cas de COVID. Alors, écoute, on l'a vu dans la NFL, on l'a vu dans le baseball, donc je me suis dit, c'est pas vraiment un sujet d'intérêt. Mais là, malheureusement, on n'a pas ben le choix parce qu'on est rendu en tout et partout à 26 matchs qui ont été remis, plusieurs équipes affectées. Alex, j'ai vu ce matin, il t'a écrit un texte, j'ai lu ton papier là-dessus. Tu sais, je dis pas que ça m'inquiète. Parce que, écoute, là, si vous avez suivi un peu la saison de baseball l'année passée, il y a eu des clubs qui n'ont pas joué pendant des semaines. Ça a été la même chose du côté de la MLS. On a trouvé le moyen de se rendre jusqu'au bout, mais clairement, aux États-Unis, c'est pas aussi évident pour les joueurs d'éviter toutes les possibilités d'être contaminés comparativement au Canada. Dans la division canadienne, c'est zéro à date. Zéro.
Ben, c'est attends, là, je vais mettre une petite nuance là-dessus. C'est zéro depuis le début de la reprise, mais cet été, il y en a eu, là. Je veux dire, il y a même eu une éclosion chez le Canadien, on s'en souvient pas, mais il y a eu Kulak, il y a eu Ouellet. Puis, peu importe ce que j'écrivais ce matin, c'est peu importe où le hockey se joue, quand il n'y a pas de bulle hermétique, comme ça a été le cas cet été à Toronto et Edmonton, des cas, il y en a, puis il va en avoir. Il faut qu'il y ait de la contagion. On s'entend qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, il n'y a pas de contagion, là, ça n'arrivera pas. Mais tu sais, au Québec, le tiers des équipes québécoises de la Ligue d'hockey junior du Québec, ils ont eu des éclosions, puis des grosses, là. Tu sais, on parle d'une éclosion de 22 personnes aussi à l'Amada. Donc, je pense pas que les équipes canadiennes soient prémunies contre ça. Maintenant, je pense que la Ligue nationale va terminer sa saison, là. Moi, je crois pas que ça va arrêter en plein milieu. Il y a de l'argent. Ils ont de l'argent, donc, pour pour apporter des changements à leur protocole. Au pire du pire, là, si ça va vraiment mal, ils vont recréer des bulles hermétiques. Les joueurs seront pas contents, mais je veux dire, à un moment donné, c'est leur salaire aussi là, qui est en jeu. Là. Je pense que les joueurs, dans ce cas-là, se plieraient à ça, que, de la même façon que dans le junior majeur, là, on y voit à plusieurs petites bulles. Donc, on va se rendre jusqu'au bout. Là où ça m'inquiète, par contre, c'est pour tous les niveaux qui sont inférieurs. T'sais, de la Ligue américaine au Atom C, là, je pense que c'est un petit peu plus dur parce qu'on commence à se rendre compte, puis il y a une étude aussi qui est sortie là-dessus en Finlande, qu'il y a peut-être de la contamination finalement pendant un match de hockey.
Ben, je vois pas comment.
C'est absurde.
Pourquoi?
Ça nous semblait absurde. Là. Je vous rappelle, au mois de septembre, il y a personne qui pensait qu'il pouvait avoir de la contamination sur la glace.
Mais comment mais ça? Là, voyons donc. Je veux dire, les gars respirent tellement fort sur le banc quand ils reviennent d'un shift. Là,
c'était pas dans l'air, là. Souvenez-vous, là. Il y a eu des matchs, là, quand même, de midget 3, puis du junior majeur, puis tout ça, tu sais. Alors, au début, on croyait pas que c'était le cas. Mais là, de plus en plus, puis même la Ligue nationale, quand même, mercredi, là, Bill Daly, qui est commissaire adjoint, a dit que ça se pouvait, en fait, qu'il y ait de la contamination sur la glace. Il n'y a pas vraiment le choix de dire ça. Écoutez, il y a 5 clubs qui jouent pas présentement.
Mais qu'est-ce que la, comment la glace,
se sont affrontés en fin de semaine?
Comment la glace empêcherait un gars de pogner un virus? Je comprends pas.
Non, mais ça n'a rien à voir. On parlait de l'espace. Il y avait peut-être un petit peu plus d'espace.
Ouais, donc, les gars sont collés sur le banc. Ouais,
mais Alexandre, tu l'as dit, dans ta citation, c'était pas dans l'air à l'époque. Maintenant, on le sait que c'est dans l'air. Tu sais, c'est ça la différence. C'est que on sait que le virus se propage par les airs. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est que là, on a enlevé les baies vitrées derrière le banc pour donner plus d'aération.
Exact.
On a amené un échangeur d'air sur le banc pour bouger l'air.
Là, on demande aussi à ce qu'il y ait plus de place dans le vestiaire, qu'on essaye de donner plus de place. On a aussi limité l'heure d'arrivée des joueurs à l'aréna et tout ça. Non, mais il y a des gars qui aiment arriver de bonne heure.
Moi, là, je vais vous dire une chose. Hier, l'Avalanche Colorado a vu son calendrier suspendu jusqu'au 11 février prochain. Moi, que je me trompe, là, c'est ça, le 11 février.
Oui, c'est ça, ouais.
Fait que donc, Colorado est avec Vegas, avec Buffalo, puis avec Jersey, puis le Wild du Minnesota. Ouais. Là, t'as 5 organisations qui sont en pause. Vegas, je pense, a recommencé un peu l'entraînement, mais t'as 5 organisations qui sont en pause. Du côté de Buffalo. Buffalo, il y a des joueurs qui sont contaminés, et là, le coach, Ralph Kruger, est contaminé. Lui, il a 61 ans.
Exact.
OK? Moi, je vais vous dire une chose. Alexandre, t'as dit, on n'est pas à l'abri ici au Canada d'attraper la COVID. T'as raison à 100% parce qu'il n'y a pas un humain qui est à l'abri de la poignée. Ça, c'est clair.
C'est ça.
La seule chose qu'il faut dire, c'est que là, présentement, au Canada, les consignes sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis. Donc, on le voit au Québec. Il y a plein de...
Au restaurant.
Les restaurants sont
pas... Tu peux pas aller au resto, non, c'est ça.
Puis il y a même des couvre-feux, puis il y a des choses comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup plus difficile pour un joueur de manquer de discipline à l'extérieur du cadre du hockey présentement quand on est au Canada, selon moi. Moi, je lance un message. Puis là, je le sais qu'on est dans une balado. Puis là, il y a plein de gens qui écoutent. Ça va peut-être pas se rendre à la Ligue nationale. Mais je lance un message à l'association des joueurs. Pourrais-tu, s'il te plaît, demander à tes joueurs là d'être un peu plus disciplinés? Ça veut dire que si on apprenait, quand Marc Bergevin passait, tout le monde en parle, que les familles du Canadien, les familles, là, avant le retour du voyage, là, 48 heures à l'avant, ils ont été testés. Puis ils ont été testés plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'y avait pas COVID quand le gars revient à la maison. Okay? Est-ce qu'on peut avoir une discipline un petit peu plus intense du côté des joueurs aux États-Unis? Parce que là, c'est le fun, on dit, il y a des matchs à reporter. Mais Ralph Kruger, il a 61, là. Puis à 61 ans, quand t'attrapes la COVID, là, il semblerait, là, je suis pas médecin, mais il semblerait...
Ça peut ne pas être très
exactement.
Bon.
Fait que donc, on peut-tu être un peu plus discipliné?
Puis t'as raison, mais tu sais, moi, je pense que le cas de Marco Rossi a ébranlé quand même des joueurs dans la Ligue nationale, là, tu sais. Puis celui d'Alex Tallock aussi, qu'on sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a, qui est le gardien numéro un du Wild, mais qui joue plus puis qui est sur la liste COVID, qui jouera pas cette année probablement. Mais tu sais, Marco Rossi, là, on parle d'un joueur ici de 19 ans, c'est très jeune, un choix de premier tour, champion marqueur l'année dernière en Ontario, et qui a échoué son test médical avec le Wild et qui est même retourné en Autriche, il a mal dans le dos, il pourra pas jouer cette année. Et cette semaine, les médecins du Wild ont dit, on est confiant, c'est le mot qu'ils ont utilisé, confiant que ce sera pas une blessure qui va mettre un terme à sa carrière.
Ouais, quand tu fais un commentaire.
Tous les joueurs
même,
de la Ligue nationale ont vu la nouvelle puis se sont dit, OK, là, c'est comme, c'est plus juste abstrait, là, seulement. Tu sais, on savait qu'il y avait des joueurs de baseball qui avaient pas pu jouer cette année, mais là, c'est un des nôtres. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience là-dessus.
Michael, les nouvelles réglementations, pour toi, est-ce que ça va changer quelque chose?
Bon, je l'espère sincèrement, mais je dois aussi me rendre à l'évidence que ça va se passer dans les habitudes des joueurs. Il va falloir que les joueurs limitent au possible leur contact à risque
et tout
ça à
l'extérieur
de la glace. Parce que sur la glace, ben oui, c'est ça. Parce que sur la glace, là, on oublie ça. Il va falloir des systèmes d'aération complètement transformés pour essayer d'évacuer et de se faire circuler l'air, parce que les joueurs sont en constant changement sur la glace, tout ça, puis c'est presque... Donc, faut contrôler l'externe, puis c'est difficile.
Je vais vous raconter une courte histoire là, avant d'aller aux questions du public. Écoute, mes voisins, des gens qu'ils connaissent très, très, très bien, c'est des gens retraités, des grands-parents qui, à tous les jours, gardaient leur petite-fille. Ben, à un moment donné, la petite-fille, elle pogne la COVID, elle retourne chez ses grands-parents, se faire garder jusqu'à l'heure du souper, quand ses parents viennent la chercher. Elle a aucun symptôme, rien. Les deux grands-parents pognent la COVID. Les deux grands-parents, en santé, là, et fonctionnels et tout ça, décèdent.
Ah non.
Écoute, c'est désastreux. C'est une catastrophe. Bon, en tout cas, on va passer à un autre sujet. Ben, avant de passer à un autre sujet, peut-être qu'Alex, tu peux peut-être répondre à la première question de Jack Kerouac. Est-ce que la Ligue nationale a prévu un scénario dans lequel un club ne serait pas en mesure de jouer les 56 matchs?
Ben présentement, en fait, il y a une semaine tampon là à la fin de la saison pour essayer de concentrer le plus de matchs ratés. Par exemple, si une équipe en rate 5, on va essayer de les concentrer dans cette semaine-là. Ce serait peut-être pas suffisant. Mm-hmm. Et si c'est nécessaire, je pense en fait qu'ils vont y aller tout simplement avec la moyenne, le pourcentage en fait de réussite dans la saison. Il y a quand même un précédent assez simple dans la Ligue nationale la saison dernière. Les exact. Équipes n'ont pas toutes joué le même nombre de matchs. Donc j'imagine que si c'est impossible, s'il y a par exemple plus de 5 matchs ratés par équipe, une équipe par exemple serait à moins 11 ou moins 12 matchs, comme ça a été le cas au baseball à un moment donné cet été, on irait avec la moyenne.
Bon, question de Jérémy Laliberté. Et Jérémy, je te laisse répondre à cette question-là. Pensez-vous que le groupe d'entraîneurs devrait apporter des changements à l'avantage numérique qui est 1 en 16 dans les 4 derniers matchs et 4 en 32 depuis les 7 derniers?
Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut juste la peaufiner. Il faut... Il va falloir que les joueurs prennent leurs responsabilités comme il faut. C'est-à-dire, quand t'es là pour bien passer la rondelle, si je regarde Drouin, je regarde Keke, je regarde Suzuki, tu sais, assume la responsabilité, fais-la bien. Là, évidemment, tout le monde va regarder Toffoli qui est en plein milieu de ce losange défensif. Mais il faudra à un moment donné peut-être aussi recommencer à utiliser Shea Weber, parce que là, on l'a un peu oublié, là. Mais quand Shea va envoyer 3-4 plombs à hauteur des oreilles du gardien de but, on va dire, ah, c'est vrai, lui est là. Fait que là, ça va libérer. Fait que, je pense qu'on a une bonne formule. Il faut la peaufiner, s'assurer qu'elle soit efficace. Mais je pense qu'on a une bonne formule présentement.
Bon, dernière question, Michael. Je te laisse répondre. Si un jour la liste des joueurs scrutés par Trevor Timmins était rendue publique, est-ce qu'on verrait vraiment le nom de Noah Juulsen devant celui de Thomas Chabot? Vous avez regardé un peu Thomas Chabot jouer hier. Encore un très bon match. Une question de Antoine Issoir.
On aimerait tellement ça, avoir accès à ces listes-là. Là. Ça devrait être comme dans n'importe quel gouvernement, là, après 50 ans ou après 100 ans, avoir accès à ces listes-là. Moi, je suis pour
c'est
ça.
C'est 30 ans, je pense,
sincèrement,
en plus, là.
Noah Juulsen, écoute, à Everett, là, c'était une équipe hyper défensive à l'époque. C'était Kevin Constantin qui coachait là. Puis je suis persuadé que Trevor Timmins adorait ça. C'est un gars responsable sur la glace, plus que Thomas Chabot dans le junior. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un gars créatif offensivement, vous savez. On l'a vu encore une fois hier soir. Est-ce qu'il était devant lui? Je serais pas porté à dire ça, mais je sais que, d'après moi, ils étaient très près sur sa liste parce que Noah Juulsen, c'était dans le prototype de défenseur que Trevor aime beaucoup. Alors, je sais pas, mais je vote là, pour dévoilement des listes après tant d'années.
Bon, les gars, on peut pas se laisser sans un petit commentaire sur le Super Bowl de dimanche. Écoute, je le sais, là, tout le monde est un peu déchiré entre la nouvelle génération, Pat Mahomes, et aussi l'ancienne génération, celle de Tom Brady. Une petite prédiction, un petit mot sur le match du Super Bowl, Jeff?
Ben, prédiction, hey, tabarouette, tu me demandes ça. Peux-tu, y a-t-il quelqu'un au Québec qui peut aller contre Tom Brady? Si oui, levez la main, je le sais pas, là, mais je suis obligé de dire que selon moi, la meilleure équipe, c'est les Chiefs. Et je pense qu'on arrive à une nouvelle génération. Puis ouais. On tourne la page. Les Chiefs de Kansas City vont remporter le Super Bowl.
Alexandre?
Ben, je pense que les Chiefs forment une meilleure équipe, mais j'ai quand même de la misère à parier contre Tom Brady. Alors, je vais y aller avec les Bucks.
Michael?
Le 7, là, c'est tellement un beau chiffre, messieurs. Là. Alors, Tom Brady, 7e bague du Super Bowl. Hey. Donc, je vais avec les Bucks. Mais les Chiefs, moi aussi, ma tête me dit que, là, mais... Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas empêcher un cœur d'élite.
Le gars, il a une fiche de 6 victoires, 3 défaites au Super Bowl. Je veux dire, T'sais, juste de dire 6 victoires, 3 défaites, tu aurais pu dire en série. Non,
Super Bowl.
C'est assez incroyable. Moi, je pense que les gars, si tout se passe dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas un match bizarroïde où il y a un paquet de revirements et tout ça, les Chiefs vont gagner. Mais avec Tom Brady, écoute, il y a quelques années contre les Falcons, vous vous en souvenez tous, on pensait que c'était...
Mais on a une genre d'année assez bizarroïde, fait que ça se peut que ça soit bizarroïde.
C'est ça, exactement.
Bon, ben c'est assez pour le podcast bizarroïde d'aujourd'hui. Les gars, on se retrouve à la fin de cette semaine, ou au début de la semaine prochaine, je devrais dire. Merci beaucoup d'avoir été là. Jérémy Rainville, Alexandre Pratt, Michael Lalancette. Merci aussi à Geoffroy Morin, du côté de la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir été là.